franceinter.fr.
Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, la suite de notre série sur l'univers carcéral en France durant les années 70. Hier, nous avons abordé le drame de la prison de Clairvaux. Aujourd'hui, nous vous proposons de réécouter l'histoire de la révolte dans les prisons en France pendant l'hiver 1971-1972, dont l'épisode le plus important s'est déroulé dans la maison d'arrêt de Nancy. Sujet sensible par excellence, la prison est depuis de longues années source de débats et d'interrogations. S'intéresser à elle, c'est se plonger dans les entrailles de notre système judiciaire, s'immiscer dans les peurs et les fantasmes de l'opinion sur les condamnés, regarder en face ces corps qu'on jette et qu'on isole pour un temps de nos regards et de nos vies. Pendant l'hiver 71-72, certains d'entre eux sortent de l'ombre et brisent le silence. Les prisonniers luttent pour leurs droits, eux qui en sont privés. Alors il faut bien que la société apporte une réponse aux crimes et délits par la punition, bien sûr. Mais cette réponse, c'est la privation de liberté, qui est déjà la sentence la plus dure pour un être humain. Alors, pourquoi y ajouter le sordide, l'indignation et l'indignité? Là est le fond du problème, et là se construit le sentiment de révolte à Nancy qui engendrera le premier procès de l'univers carcéral français, le maillon faible de la République. Aux côtés des détenus et des intellectuels soutenant leur lutte, nous tendrons l'oreille derrière les murs de ces maisons d'arrêt. Ces années-là, si c'est la justice qui condamne à la prison, elle est absente de ces lieux où seul le règlement édicté par les directeurs et les détenus eux-mêmes, d'ailleurs les caïds, organisent, jugent et répriment. Alors, que s'est-il passé à Toul et à Nancy pour que des prisonniers se mutinent? Comment et pourquoi nos prisons se sont-elles révoltées en 1972? Pour en parler après le récit, nous recevrons en seconde partie d'émission Anne Guérin, journaliste, sociologue, membre de l'Observatoire international des prisons. Elle est l'auteur du livre, qui est une somme, intitulé « Prisonniers en révolte, quotidien carcéral, mutinerie et politique pénitentiaire en France de 1970 à 1980 », édité chez Ergon. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, attaché de production Léa Dupouy-Henquin et Lucille Valéry, programmation musicale Muriel Pérez, lecture Philippe Pierrard, réalisation Fabrice Lègle, Coyen Guyenne et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Charles Denet.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Depuis les événements du printemps 68, la France a repris le chemin du quotidien et de l'ordre encore assez établi. Mais en même temps, comme un lendemain de fête sans fin, les enfants de mai tentent de retrouver l'effervescence des meetings et des mots d'ordre imaginés dans les amphithéâtres ou dans les ateliers des usines. La lutte se poursuit, différemment, pendant que le président Georges Pompidou et son premier ministre Jacques Chaban-Delmas tentent de donner au pouvoir post-gaulliste un profil plus ouvert, plus moderne. C'est une France qui semble osciller entre progrès et tradition. L'ordre doit régner, il reste une valeur largement partagée. Alors des ministres plus rigides que le président et son fringant premier ministre, comme Raymond Marcellin à l'intérieur, surnommé Raymond la Matraque, souhaitent par exemple l'anéantissement de toutes les organisations héritières des événements de mai 68. Après l'intimidation, les arrestations et la saisie de journaux parmi les mouvances dites gauchistes, la place Beauvau obtient du gouvernement la dissolution de l'un de ses groupes les plus influents, la gauche prolétarienne, dont le compagnon le plus célèbre n'est autre que Jean-Paul Sartre. Dans le même temps, le ministre de l'Intérieur arrête et embastille le directeur de publication du journal La Cause du Peuple, Jean-Pierre Le Dantec. En quelques mois, des dizaines de militants politiques se retrouvent derrière les barreaux. Au fond de leurs cellules, ces étudiants, ces intellectuels, ces révolutionnaires découvrent l'univers pénitentiaire, le calvaire des prisonniers de droit commun. Très vite, ils organisent à l'intérieur et à l'extérieur des prisons des actions de sensibilisation, dont deux grèves de la faim. À vouloir enfermer la révolte, Marcellin l'installe, en fait, à l'intérieur des prisons. Erreur de stratégie manifeste. Et le 8 février 1971, après une grève de la faim des détenus politiques, Michel Foucault, philosophe, Jean-Marie Domenac, journaliste, et Pierre Vidal-Naquet, historien, fondent le GIP, groupe d'information sur les prisons. La prison intègre ainsi le champ des idées.
Nul de nous n'est sûr d'échapper à la prison. Aujourd'hui, moins que jamais. Sur notre vie de tous les jours, le quadrillage policier se resserre. Dans la rue et sur les routes, autour des étrangers et des jeunes, le délit d'opinion est réapparu. Nous sommes sous le signe de la garde à vue. On nous dit que la justice est débordée, nous le voyons bien. Mais si c'était la police qui l'avait débordée? On nous dit que les prisons sont surpeuplées, mais si c'était la population qui était sur-emprisonnée? Peu d'informations se publient sur les prisons. C'est une des régions cachées de notre système social, une des cases noires de notre vie. Nous avons le droit de savoir, nous voulons savoir. C'est pourquoi, avec des magistrats, des avocats, des journalistes, des médecins, des psychologues, nous avons formé un groupe d'information sur les prisons. Jean-Marie Domenac, Michel Foucault, Pierre Vidal-Naquet.
Dans les files d'attente des parloirs, à la sortie des prisons, puis de cellule en cellule, des petits papiers commencent à circuler. Ils sont inscrits quelques questions sur le quotidien des détenus, leurs conditions de détention, leurs droits derrière les murs, leurs besoins. Foucault et ses acolytes publient mois après mois le résultat de ces premières enquêtes, libèrent la parole des détenus et accusent le gouvernement de laisser les prisonniers à la merci des directeurs des établissements pénitentiaires. La situation est explosive. Quelques mois plus tard, à la fin de l'été, la prison est au cœur de l'actualité. Pendant l'été 1971, on relève une augmentation des tentatives d'évasion. L'une d'elles fait la une de nos journaux. Le 21 septembre 1971, dans la prison de Clairvaux, Claude Buffet et Roger Bontemps tentent de s'évader. Ils prennent en otage deux personnes, une infirmière et un gardien. Après une journée de négociations et d'attentes, la police donne l'assaut vers 22h. Ils retrouvent les deux otages, la gorge tranchée. Le lendemain, l'émotion dicte les mots des éditorialistes et des inconnus qu'on interroge. L'opinion et les surveillants des prisons réclament une peine exemplaire contre les deux coupables. René Pleven, ministre de la Justice, entend cette émotion et il déclare.
Nous devons, à Clairvaux comme ailleurs, trouver des moyens plus efficaces de protéger le personnel, et en particulier celui des services médicaux et sociaux. Toutes améliorations ou modifications aux installations qui paraîtraient nécessaires devront être réalisées dans les plus brefs délais et je prends l'engagement d'en trouver les moyens.
Pendant plusieurs semaines, le drame de Clairvaux est dans toutes les têtes. On réclame la peine de mort et on rejette un peu plus loin dans nos cellules ces voleurs d'un jour avec les assassins et les bandits de haut vol. Ça s'appelle l'école du crime. Le 12 novembre, sous la pression des syndicats de surveillants, on décide de supprimer les colis de Noël des détenus. En attendant le jugement des deux assassins, c'est l'ensemble des prisonniers qui paie l'addition. Et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un mois plus tard, les prisonniers se révoltent. Le 5 décembre 1971, dans la prison de Toul, plus de 200 détenus refusent de regagner leurs cellules et s'installent en sit-in dans la cour de promenade. Collectivement, ils inscrivent des revendications et révèlent les conditions de détention. Ils réclament le départ du directeur de l'établissement, Georges Galliana. Cet ancien directeur de la prison d'Alger, lors de la guerre d'indépendance, a gardé de ses années de non-droit le goût de la matraque et de la brutalité. Les détenus transmettent ses doléances à l'abbé Veltin, une sorte d'abbé Grégoire de Toul, un homme de foi qui a la confiance des détenus. Quand la République s'efface de nos prisons, ce sont souvent les gens d'église qui entendent la détresse des prisonniers. 4 jours plus tard, bis repetita, les détenus ne font pas le mur, mais se révoltent, construisent des barricades, montent sur les toits pour crier leur colère et mettre la pression sur les autorités. Après plusieurs heures de tension, l'abbé Veltin annonce le résultat des négociations au micro de France Inter.
Il y avait des revendications légitimes, elles sont satisfaites, mais tout est fini, quoi, pratiquement. Mais laissez-leur le temps de rentrer dans les bâtiments, de descendre des toits. Et puis les adultes donnent la consigne aux jeunes de rentrer dans l'ordre, d'obéir, d'être disciplinés. Et une fois de plus, ils m'ont obéi. La garantie, c'est l'administration qui leur a donné, suite de différentes démarches. Le nouveau directeur est Monsieur Divizia. Il assume personnellement, et aussi longtemps qu'il le faudra, la direction de la maison. Et cette mesure a apaisé les détenus, et la suite viendra. Vous savez que j'étais intervenu dans la nuit de samedi à dimanche. J'ai obtenu le calme, la paix. J'avais dit qu'il fallait prendre des mesures immédiatement. On voulait bien faire de moi un héros qui avait évité à nouveau Clairvaux. J'ai dit pas du tout, j'ai retardé la bombe. Si on laisse pourrir la situation, ça éclatera. Un préalable a quand même été posé, c'est qu'il n'y ait pas, bien sûr, de répression contre ce qu'ont dit les meneurs. J'espère que l'administration tiendra ses promesses. Maintenant, l'administration a ses problèmes. Tout est cassé.
Et rien ne change. En fait, le directeur ne s'en va pas. Et les mutins reçoivent le châtiment prévu. Matraque, coup de poing, mitard. Certains sont attachés plusieurs jours, sans pouvoir bouger. L'abbé et l'aumônier, eux, sont interdits de séjour. À l'extérieur, des comités de soutien s'organisent. Michel Foucault et Simone Signoret achètent une pleine page dans le journal Le Monde pour publier le témoignage du docteur de la prison Edith Rose qui parle des conditions inhumaines de détention. Toul, épicentre de la révolte. Le 13, une nouvelle mutinerie explose. Sous la pression, Maurice Lambert, le préfet de Meurthe-et-Moselle, annonce.
Une nouvelle enquête administrative aura lieu et l'inspecteur général d'administration pénitentiaire se rendra demain matin à Toul et procédera à une nouvelle enquête.
Un dernier point, monsieur le préfet, y a-t-il eu des blessés au cours de l'affrontement entre les prisonniers en rébellion et les forces de l'ordre?
Il y a un certain nombre de blessés, mais la plupart sont des contusions légères. En vérité, il y a simplement 4 blessés, 3 blessés du côté des détenus et un blessé qui est un gardien.
Et on peut dire maintenant, le calme est revenu.
Le calme semble revenu ce soir.
Et définitivement?
Je le souhaite.
C'est Robert Schmelke qui prend en charge cette commission, lui l'ancien directeur de l'administration pénitentiaire d'Alger. Il entame les auditions plus vite pour éviter toute contagion dans les prisons. Dans le même temps, à Toul, c'est le grand départ pour près de 200 détenus qu'on installe dans d'autres établissements, séparés pour mieux régner. On éloigne les détenus pour briser leur lutte collective et inédite, les séparant encore un peu plus de leur famille et de leurs proches. 3 semaines plus tard, Robert Schmelke rend sa copie. Toute la presse est présente, car depuis les événements de Toul, la prison s'invite dans nos pages des journaux et même à la télévision. Le jour de la remise du rapport, ce sont le pasteur Amédro puis l'abbé Veltin qui sont interviewés pour le 20h. À travers leurs mots, les Français se font enfin une représentation lucide de l'univers carcéral.
Comment et pourquoi y a-t-il eu une émeute, une véritable émeute à la prison de Toul? Quelles sont les raisons profondes?
Vous savez, monsieur, quand on est pris dans un étau, on a l'impression qu'on ne peut plus même respirer. Ça explose. On peut dire que l'étau se resserrait, n'est-ce pas, de plus en plus. Et puis, la vie est faite de petites choses. Et là, il y avait pas mal de brimades, parfois pas très graves, mais continuelles, qui faisaient que tout dialogue, au fond, était impossible.
Mais quel genre de brimades?
Je n'ai pas constaté moi-même, mais le médecin psychiatre, lui, a constaté que des jeunes restaient environ une dizaine de jours attachés sur un lit, par les pieds, par les mains. Et que quand ce médecin s'est étonné et a demandé qu'on détache ces hommes, il lui a été répondu « Nous ne pouvons pas, c'est le règlement. »
Est-ce que vous avez été, vous, témoin de sévices, de brimades?
Vous pensez bien, monsieur, que on ne fait pas ça quand les aumôniers sont là, ni même les éducateurs, ni l'assistante sociale. Ce ne sont pas des enfants de cœur.
J'ai vu à l'infirmerie des garçons attachés. J'en ai vu un encore le 1er novembre, attaché sur son lit dans une cellule d'isolement au quartier des jeunes.
Sévices quotidiens, désespoir de ces hommes jeunes, souvent arrêtés pour de petits délits, mais qui, après plusieurs mois d'enfermement et de mort sociale, pensent au suicide. Alors, la parole se libère. Dans son rapport, Robert Schmelke reconnaît certains dysfonctionnements dans les prisons, mais il réfute l'accusation de mauvais traitement.
Est-ce que les conclusions de ce rapport, qui portent uniquement sur Toul, peuvent entraîner des conséquences dans d'autres centrales sur l'ensemble du régime pénitentiaire français?
Non, je crois que là, il faut faire encore une fois très attention, n'est-ce pas? Notre enquête a porté sur Toul. Nous avons constaté à Toul des choses anormales. Bien, nous ne pouvons pas en conclure que dans l'ensemble des établissements pénitentiaires, les choses se passent de la même façon. Je suis persuadé du contraire, d'ailleurs, personnellement.
Et pourtant, la brèche dans le mur de nos prisons ouvertes à Toul ne se referme pas. Des intellectuels, des magistrats, des avocats comme Robert Badinter appellent à des réformes. François Mitterrand, à l'époque premier secrétaire du PS, demande à l'Assemblée nationale une enquête sur l'ensemble des établissements pénitentiaires. L'ORTF, pourtant frileuse à l'époque, programme un grand débat en prime time sur le sujet. Pendant une heure, Robert Schmelke revient sur les éléments de son rapport et répond aux questions et critiques des journalistes. Jean-Marie Domenac, directeur de la revue Esprit et fondateur du GIP, accuse le rapporteur de faire de Toul une exception, alors que le problème est dans toutes les prisons. 2 jours après, les événements lui donnent raison.
moyen.
Oh. 15 janvier 1972. Située au cœur de Nancy, la prison Charles III est une ancienne manufacture devenue une maison d'arrêt il y a plus d'un siècle. Sur le fronton du bâtiment, au-dessus de la grande porte, on peut lire « Maison d'arrêt de justice et de correction ». Pourtant, seul l'arrêt et la correction sont de mise. La veille, des détenus d'Écrouve qui ont tenté une action sont transférés à Nancy. Dans l'atelier le jour, dans les cellules le soir, on discute, on compare les prisons. Chacun évoque les mêmes problèmes. Hygiène, sévices, froid, faim. Alors au petit matin, au cours du petit déjeuner dans le réfectoire, certains détenus se mutinent. En quelques heures, près de 300 d'entre eux sortent de leurs cellules et prennent le contrôle de la prison. Ils barricadent les entrées, scrutent les mouvements des gardiens, puis se rassemblent, discutent et inscrivent sur un tract leurs revendications. Certains montent sur les toits, crient leur colère. À l'extérieur, devant la prison, des dizaines de badauds d'anciens détenus ou membres des familles sont arrivés dès l'annonce de la mutinerie. Des gardes mobiles quadrillent la prison et reçoivent les premières tuiles sur leur tête. Parmi les journalistes présents, Gérard Drolk, du Républicain Lorrain, est l'un des seuls photographes. Il photographie heure après heure la mutinerie. Sur ces photos, on peut voir des visages, des hommes debout, en haut des toits, qui font face à la foule et aux policiers. Deux d'entre eux portent une banderole où l'on peut lire « On a faim ». D'autres jettent des tracts imprimés à la va-vite. À 13h, après plus de 6 heures de révolte, Jean-Claude Jelin de France Inter tend le micro. Un ancien détenu parle de la vie à Charles III.
Prison Charles III à Nancy, puisque vous êtes resté combien de temps ?
Un an.
Vous êtes sorti il y a combien de mois ?
6 mois.
Alors, comment ça se passe à l'intérieur de cette prison ?
L'intérieur de cette prison, c'est vraiment dégueulasse. On a du pain qui date de 15 jours, avec des marteaux, on a du mal à casser. On est à 30 dans une chambre. On a une tinette en plastique pour chier devant tout le monde. Si un surveillant vous dit, dans la cour, tu ramasses les mégons, on lui dit non. Un quart d'heure après, ils viennent, ils sont assis, ils vous tapent dessus. Et il faut voir les mitards, comment que c'est. Les mitards, la journée, vous n'avez pas de péage, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez rien.
Est-ce que vous-même, vous avez été maltraité ?
Oui, j'y ai été, moi.
Les raisons ?
Moi, les raisons, parce qu'un jour, j'ai répondu à un surveillant, ils étaient au moins 6 dessus. Mais je n'ai pas calé, malheureusement, alors je me suis retrouvé, j'avais été comme ça.
Est-ce qu'il y avait des ceintures de contention dans cette prison ?
Comment ?
Est-ce qu'il y avait des ceintures de contention ?
Non, mais ça arrivait qu'ils mettaient les menottes et puis qu'ils les attachaient après lui, qu'on était pliés en deux comme ça, puis qu'ils nous tapaient dans la gueule sans pouvoir qu'on puisse faire quelque chose.
Enfin, est-ce que vous approuvez vos anciens camarades, vos anciens. Les détenus qui sont là sur le toit et qui sont en train de tous s'accager ?
Moi, je les approuve. Moi, je les approuve parce que quelqu'un qui n'a pas été peut pas en causer, mais quelqu'un qui a été peut réellement causer. Il faut voir ce qui se passe là-dedans.
Je peux vous demander la raison pour laquelle vous avez été condamné ?
Ouais, pour vol. Un vol de mobilette.
Et vous avez réussi à vous reclasser ?
Oui, maintenant je suis reclassé, je suis marié. Mais vous savez, celui qui sort de là-dedans, il a du mal à se reclasser. Hein. Enfin, c'est incroyable.
Des mots qui nous permettent d'imaginer ces vies qu'on nous cache, puis des images qui nous interpellent encore aujourd'hui. Sur les clichés de Gérard Drolk, pris sur les toits de cette prison, on a l'impression de voir les enfants derrière des boutons ou les 400 coups de Truffaut. Comment sont-ils devenus des détenus ? Après quelques mois, les plus jeunes sont relâchés, puis ils rechutent et reviennent en cellule à Charles III. La prison est la meilleure école de la récidive. Peu importe, l'opinion réclame que justice soit faite, la prison est la sentence qui rassure le peuple. Alors on emprisonne à tout va, au risque de l'explosion.
Monsieur, vous êtes nancéien ?
Oui, je suis nancéen.
Vous êtes là depuis combien de temps ?
Je suis venu au monde à Nancy.
Non, je veux dire, vous êtes devant la prison depuis combien de temps ?
J'arrive.
Alors que pensez-vous de ce qui se passe là sur le
Je chemin. Pense que de casser, ce n'est pas une manière de parler.
D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant ?
Ben, ce qu'il faut faire, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur des prisons. Je ne suis pas sanguinaire, mais je trouve que la répression, à la base, quand on pense que les femmes n'osent pas sortir le soir de chez elles, qu'elles n'osent pas rentrer chez elles, que les pauvres vieux se font assassiner dans leur maison, eh ben, je trouve tout de même qu'il y a quelque chose où on ne les démêle pas assez, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a des gens qu'on peut rééduquer, il y en a qu'on ne peut pas rééduquer. Ceux qu'on ne peut pas rééduquer, ben, c'est des nuisibles.
Et en ce moment, détruit, mais vous pensez qu'il faut discuter quand même avec les mutinés ?
Ah, je ne sais pas si on peut. De toute façon, je ne discuterai pas avec des gens qui cassent. Je veux bien discuter tant qu'ils ne cassent pas, mais pas quand ils cassent.
D'accord, merci, ça va.
Eh bien, il n'y aura pas de discussion. À 13h45, l'ordre d'assaut est donné aux gardes mobiles. Un hélicoptère est appelé à la rescousse. Les gardes mobiles entrent dans la prison, enfoncent une par une chaque barricade et inondent les étages de gaz lacrymogène. Le toit disparaît dans la fumée. Les derniers révoltés jouent les équilibristes, puis se rendent lorsque l'un d'entre eux se blesse gravement. L'ordre pénitentiaire reprend ses droits. Tout se passe derrière les murs, comme avant. Certains mutins sont sortis depuis et se souviennent de cette journée, de ses conséquences, comme Charles Hoffman, qui raconte dans le documentaire « Sur les toits » de Nicolas Drolk.
Moi, je me suis retrouvé transféré à Toul. Là, on est arrivé à Toul, qui nous ont foutu là-bas. Je suis resté 2 jours à Toul. De là, ils nous ont pris, on était 4-5. 2 jours après, retransféré à Nancy. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe encore transféré à Nancy, et puis on arrive là-bas, casse-croûte. Hein. C'était carrément la haie, même pas les CRS, hein, ils étaient devant toutes les portes quand même, il n'y avait plus rien. Mais toute une haie de surveillants, ça je vous garantis que c'est vrai. Hein. Moi, je me suis retrouvé à poil complètement, je dis bien à poil, moi. Dans l'allée, ils nous ont trépané, hein, à coups de choc par terre et tout, je me suis retrouvé. La tête comme ça, dans les mitors, il y avait 400 mecs qui étaient habillés, parce qu'il n'y avait rien, hein, dans les, ils n'avaient plus rien non plus, mais ils étaient parqués comme ça. C'est encore les gars qui, au bout d'une heure après, voyaient qu'on m'avait pardonné mes freins, qui ont frappé, qui ont gueulé en disant « Redonnez-lui voir ses habits, là hein, !» Voilà, c'était honteux, hein. Et le directeur, tout ça, tout le monde était au courant. Hein. Il n'y a personne qui a bougé, qui n'a rien dit, hein, ils le savaient, hein, la haie d'honneur en arrivant. Ah non, là-dessus, ça a été des pourritures. Hein. pour ça, quand on dit, ils savaient très bien qu'on avait raison. Ils savaient pourquoi qu'on faisait de mutinerie.
Le garde des Sceaux, René Pleven, déclare à la presse le soir même que la mutinerie qui a éclaté parmi les détenus de Nancy n'était motivée par aucune cause sérieuse de mécontentement. Puis, il fait porter la faute à ce qu'il appelle les éléments subversifs qui fomentent, selon lui, de l'extérieur, le désordre et la révolte dans les prisons. De la place Beauvau à la chancellerie, on cherche des coupables, c'est clair. On en désignera 6, Jean-Claude, Charles, Daniel, Gérard, Michel et Gilbert. Ils ont tous moins de 30 ans, tous condamnés pour vol. 6 détenus pour plus de 200 mutins, 6 détenus pour ne pas perdre la face, pour l'exemple. Pendant que les journalistes sont invités par le ministère à filmer et à photographier les dégâts à l'intérieur de la prison de Nancy, le soutien aux mutins s'organise. Partout en France, des comités se forment. Le GIP de Nancy collecte le plus d'informations possible auprès des familles et d'anciens détenus pour préparer la défense des inculpés. Ils en publieront un ouvrage intitulé « Le livre noir des événements de Charles III ». La riposte intellectuelle s'amplifie. Le 17 janvier, une conférence de presse sauvage se tient devant les grilles du ministère de la Justice, place Vendôme. Les plus grands intellectuels français sont présents. Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Gilles Deleuze, Claude Mauriac. Le Nouvel Obs titre en une « Les prisons de Pleven », interviewe d'anciens détenus et accuse le gouvernement. Les Français découvrent le quotidien des prisons, où le chauffage est souvent absent des cellules, où la douche est un luxe au bon vouloir des gardiens, où la presse est censurée, où la violence physique des surveillants est tolérée, voire motivée, où les droits fondamentaux de chaque homme sont bafoués. Le 8 juin, le jour du procès des mutins de Nancy, en solidarité avec les 6 inculpés, des actions se déroulent dans plusieurs prisons. Certains refusent de prendre le petit déjeuner, d'autres de travailler. Dans le box des accusés, ils sont 6. Sont-ils les leaders de la mutinerie? Maître Henri Leclerc, accompagné de son confrère Albert Nau, prouveront le contraire. Pendant ces quelques heures d'audience, c'est la prison et le système carcéral qui se retrouvent dans le box des accusés. À 20h, le verdict tombe. Les 6 prévenus sont condamnés à des peines allant de 5 à 8 mois de prison. Retour en cellule. Alors quel avenir pour eux? Pas grand-chose, comme le dit un ancien détenu en 1973, entretien extrait, là encore, du documentaire « Sur les toits » de Nicolas Drolk.
Quel est son avenir au mec? Il va retourner, manœuvre, à 500 balles de l'heure, hein? Bon, il sera toujours dans la même merde, hein? Bon, s'il aura appris en prison, il aura appris un peu plus de vice. Pour quand il ressortira, eh ben, il recommencera, il cassera. Et c'est la société qui fait recommencer les gens. Hein? On te met en prison, comme je disais tout à l'heure, tu fais ta peine, tu ressors, crac, c'est pareil, t'es ta vie, tu sens que ta vie, elle est loupée, quoi. Vous êtes détenu, vous êtes ancien détenu et tout ça, tu peux plus rentrer de nulle part, toutes les portes se ferment. Hein, tu peux rentrer où on t'exploite le plus. Ben c'est, je crois que c'est ça. Alors la prison, c'est vraiment la poubelle de toutes les sociétés. Quoi.
Mutin, plutôt que mouton. 2 ans plus tard, en 1974, de nouvelles révoltes éclatent malgré la création du secrétariat d'État à la condition pénitentiaire. De Robert Badinter à aujourd'hui, la situation a évolué, c'est vrai. Mais la France est condamnée régulièrement par la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions de détention dans ses prisons.
Some black face in a lonely place Fill your cup with the promise of a man. Dream up, let me fill your cup with the promise of a man.
France Inter, Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la révolte dans les prisons en France dans les années 70 avec notre invitée Anne Guérin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes journaliste, sociologue, membre de l'Observatoire international des prisons et vous êtes l'auteur d'une somme, un ouvrage intitulé « Prisonniers en révolte, quotidien carcéral, mutinerie et politique pénitentiaire en France de 1970 à 1980 ». Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette histoire au point d'en écrire un livre ? Qu'est-ce qui vous a touché, ce que vous vous êtes dit, c'est un combat majeur qu'il faut mener en France.
Je me suis dit ça, oui. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai été à ce point fasciné par ce qui se passait à cette époque. Et j'ai voulu en savoir plus parce que, en fait, c'était un chapitre de l'histoire de France qui n'était quasiment jamais abordé par personne. Dès qu'on se posait une question au sujet de ces années 70, qui étaient des années cruciales, pour les prisons et pour les prisonniers surtout, on n'avait pas de réponse.
C'était tabou.
C'était tabou. Et puis en plus, il faut bien le dire, ça n'intéressait pas le grand public. Il n'y avait pas de livre best-seller qui racontait ces histoires. Il fallait donc se reporter aux journaux qui, eux non plus, ne disaient pas grand-chose parce que la plupart des journaux se contentaient de répéter ce que disaient les officiels, les ministères, les directeurs de prison et la police. Ce qui fait que là aussi, on arrivait à faire très vite l'impasse sur ce qui s'était réellement passé.
D'ailleurs, ça correspondait à la définition même de la prison, c'est mettre des gens hors de la société et hors de notre vue. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'il peut se passer n'importe quoi et les pires choses hein, à l'intérieur de ces murs. C'est bien toute la problématique. Quelle était votre méthode de travail pour écrire ce livre? Vous avez beaucoup consulté, vous êtes allé dans les prisons. Comment ça s'est passé? C'est une grande enquête. Hein.
Oui, c'est une grande enquête, mais ça ne s'est pas passé, ça ne s'est pas fait dans les prisons. D'abord parce que si j'étais allé dans les prisons, ça aurait été 30 ou 40 ans plus tard et la réalité aurait déjà beaucoup changé. Et aussi parce que il était très difficile, il était quasiment impossible à l'époque pour les journalistes et sociologues d'entrer dans les prisons. On ne le laissait pas venir. Et moi, je m'intéressais d'ailleurs pas du tout à l'époque aux questions des prisonniers. C'est aujourd'hui, il y a un certain progrès puisque l'administration pénitentiaire admet assez bien, une fois qu'elle a bien examiné le postulant à une enquête sur les prisons, il admet assez bien que des sociologues, par exemple, y aillent et fassent leur rapport sociologique.
Donc vous avez
à l'époque, c'était impossible.
Voilà, votre enquête était plutôt auprès d'avocats, de directeurs de prison, du ministère.
Et non, justement. Mon idée, c'était plutôt, dans toute la mesure du possible, de donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais. Et en cela, je rejoins très humblement Michel Foucault, qui disait « tout le monde a le droit de parler, y compris les détenus, et pas seulement les directeurs, les avocats ». Qui ont fait du très bon travail d'ailleurs à l'époque et à d'autres époques aussi, les responsables, les ministères, les gens qui travaillent dans les ministères avaient forcément un point de vue qui était très éloigné de celui des prisonniers, tout simplement parce qu'ils ne mettaient jamais les pieds dans les prisons, sauf les avocats qui y allaient quand même.
Alors, hier, nous avons abordé la prise d'otage de Clairvaux par Roger Bontemps et Claude Buffet et son dénouement tragique avec la mort de deux otages de septembre 1971. En quoi cet événement a-t-il joué un rôle dans le déclenchement des mutineries de Toul en décembre 71 et de Nancy en janvier 72, si ça a joué un rôle d'ailleurs?
Je ne suis pas tellement sûr que ça a joué un rôle. Il faut dire aussi que pour que les prisonniers dans une prison soient influencés par ce qui se passe dans une autre prison, il faudrait déjà qu'ils soient au courant de ce qui se passe à l'extérieur. Et ils ne l'étaient pas. Les journaux, la télévision, les livres n'entraient pas dans les prisons, sauf quelques journaux de droite ou des journaux qui parlaient de sport, par exemple.
Ouais, qui étaient neutres, quoi.
Qui étaient tout à fait neutres et qui ne s'occupaient pas des prisons. Donc, les prisonniers étaient dans une ignorance quasi totale de ce qui pouvait se passer à l'extérieur, y compris de ce qui pouvait se passer dans une autre prison. Ça, c'était au tout début des années 70. Après, ça a changé, parce qu'à partir de 74-75, les détenus ont acquis le droit, qui leur était toujours contesté d'ailleurs, mais enfin, ils ont fini par avoir un semblant d'accès aux journaux. À la télévision, c'était plus tard, mais surtout aux journaux, ce qui fait qu'ils ont pu savoir ce qui se passait à l'extérieur. Ce qui n'était pas le cas avant.
Absolument. Alors, dans votre enquête, vous mettez en avant le rôle de mai 68. Vous pointez l'absence de mouvement à l'intérieur des prisons, mais aussi l'absence de protestation. Et puis, il faut attendre la répression des mouvements dits gauchistes, hein, qui voient le jour à la suite de mai, pour que la prison sorte de l'ombre. Alors, quelles sont les conséquences, justement, de l'arrivée dans les prisons de ces militants? Est-ce que ça ouvre l'information au public sur ce qui se passe en prison?
Oui, ça a ouvert une information, mais il faut dire que les premiers militants qui sont entrés dans les prisons parce qu'ils sont devenus prisonniers, c'est-à-dire grosso modo les maoïstes, n'avaient pas une audience aussi énorme que l'on a pu croire par la suite, parce qu'on a beaucoup parlé des maos. Ils faisaient un travail très intéressant, parce que dès qu'ils entraient dans une prison, ils s'efforçaient de noter tout ce qui s'y passait et de faire sortir par des moyens tout à fait clandestins les notes qu'ils avaient prises. Ces notes étaient diffusées par d'autres maoïstes et étaient publiées dans La Cause du Peuple, par exemple. Mais toute la France ne lisait pas La Cause du Peuple, loin de là.
N'empêche que ça filtrait. Enfin, ça filtrait, les informations filtraient.
Les informations filtraient, mais les Mao n'avaient pas une audience tellement énorme. Et il faut dire aussi à propos du GIP...
Groupe d'information des prisons, hein, je rappelle.
Groupe d'information sur les prisons était, à mon avis, un petit peu... Comment dirais-je? Le rôle du GIP a été un petit peu surévalué, notamment parce que Michel Foucault en a pris la tête, et que Michel Foucault est resté quelqu'un d'extraordinairement apprécié et populaire depuis. Mais enfin, le GIP aussi était une toute petite organisation qui avait commencé par publier les textes dans les colonnes de La Cause du Peuple, parce qu'il n'avait pas d'autre audience au tout début. On a dit souvent, et surtout les ennemis des prisonniers et la presse de droite ont dit que si les prisonniers se révoltent, c'est de la faute du GIP. Ce qui était complètement ridicule, parce que le GIP n'avait pas les moyens d'entraîner vers la révolte les détenus, et il n'aurait pas voulu le faire parce qu'il n'aurait pas pu les défendre au cas où, effectivement, ils se révoltaient. Qu'est-ce que pouvait faire le GIP à l'extérieur? Rien du tout.
En tout cas, il y a un discours qui est fort. Je vous dis ça parce qu'on va écouter Michel Foucault, dont l'œuvre « Surveiller et punir » est une matrice pour la réflexion sur ce sujet. Alors, on va écouter ensemble un extrait de l'interview que Michel Foucault a donné à Radio-Canada. C'était en avril 1971, un peu moins d'un an avant la révolte à Toul et à Nancy. Et il parle des premiers résultats des enquêtes du GIP sur les conditions de détention.
Ces conditions, elles sont extraordinairement dures et sévères. Et si vous voulez, je crois qu'elles peuvent toutes se résumer en un mot. La détention, c'est en principe la privation de la liberté, de la liberté de sortir, de la liberté d'agir quotidiennement à l'intérieur de sa famille et de son cadre de travail. Un point, c'est tout. Mais pourquoi est-ce que la prison devrait entraîner de plus la privation d'un certain nombre d'autres libertés fondamentales? Or, c'est précisément ce qui se passe en France. Sous prétexte que l'on enferme les gens, on les prive d'un certain nombre d'autres libertés ou d'un certain nombre d'autres droits fondamentaux, qui sont par exemple le droit à l'information, ou qui sont le droit au travail, ou en tout cas le droit à la rémunération légitime du travail, le droit aussi à la vie sexuelle, etc. Je vais vous prendre comme ça un certain nombre d'exemples assez curieux. En France, un détenu n'a pas le droit de recevoir la moindre information politique.
C'est-à-dire qu'il ne peut pas lire les journaux?
Eh bien, il peut bien lire les journaux. On lui donne Paris Match ou on lui donne Jour de France. Vous connaissez ces publications. Elles ne sont tout de même pas très dangereuses.
Il y a des photos.
Il y a des photos et quand il y a des nouvelles politiques, l'administration de la prison prend des ciseaux et découpe la page ou la moitié de page ou le quart de page dans lequel il y a...
Et la radio et la télévision et
dans la prison, les deux ou trois prisons en France, où il y a la radio, il y a nulle part la télévision, on coupe la radio au moment où l'information est donnée. De telle sorte qu'il y a eu des détenus qui, en 1968, qui ne se sont aperçus de rien.
Finalement, au bout du compte, on a envie de se demander, mais quels étaient les droits des détenus en prison, à part celui de manger, se déplacer?
Se laver même pas. C'était pas très bon.
Déjà, se laver même pas parce que la douche est un luxe. Les besoins naturels dans les conditions qu'on a entendues, et c'est quasiment pas un droit. Quels étaient leurs droits? Rien.
C'est vrai que il faudrait beaucoup chercher avant de trouver au début des années 70 des droits accordés aux prisonniers. Pratiquement, c'est vrai qu'il y en avait très peu. Ils avaient le droit d'être vêtus de vêtements en loques qui n'étaient pas leurs vêtements personnels mais qui étaient dispensés par l'administration pénitentiaire qui faisait des économies sur tout, donc on n'allait pas leur donner des costumes cravates et au contraire c'était un sujet de rigolade entre les prisonniers parce qu'il y en avait un prisonnier tout petit qui arrivait avec une chemise qui était deux fois trop grande pour lui ou alors l'inverse, ou un pantalon qui était deux fois trop court. Bon, ils avaient le droit d'être vêtus par l'administration pénitentiaire. Ils n'avaient pas le droit au chauffage, par exemple, ce qui paraît, surtout dans les prisons du Nord et de l'Est.
Parfaitement inhumain.
Parfaitement inhumain. Ils avaient le droit de travailler, mais il y avait peu de travail pour les détenus, et le travail était très mal payé. Donc, c'était très limité aussi. Ils avaient droit de lire des livres qui étaient présélectionnés pour un public de détenus. C'était des livres de l'ordre de la comtesse de Ségur.
Rien de subversif.
Et aussi des romans policiers, pourquoi pas. Mais ça ne contribuait pas beaucoup à leur éducation. Et à propos d'éducation, il faut dire aussi que il y avait la possibilité dans certaines prisons et pour certains prisonniers qui étaient des sages, il y avait la possibilité de suivre des cours, mais c'était extrêmement limité, ce qui fait que du point de vue de leur instruction, au début des années 70, il y avait presque rien.
Alors il y a l'autre phénomène, mais qui existe encore, celui de la violence. Alors il y a la violence entre détenus, il y a la violence des surveillants, et puis la violence des caïds aussi. Donc toute cette violence-là, est-ce qu'elle existe encore en prison? Oui, d'après les informations qu'on peut avoir, à cette époque-là, ça devait être particulièrement dramatique, j'imagine.
Oui, il faut dire que les surveillants étaient souvent d'anciens militaires qui avaient fait leurs armes, et qui avait un peu tendance à traiter les prisonniers comme des gens à qui il fallait imposer une discipline extrêmement stricte comme à l'armée. Et il y avait d'autres surveillants qui venaient d'Algérie, parce que à l'indépendance de l'Algérie, qui avait eu lieu en 62, l'administration pénitentiaire était obligée de récupérer le personnel des prisons algériennes. Et ce personnel avait l'habitude de traiter les Arabes comme des animaux. Donc ça faisait dans l'ensemble un groupe de surveillants qui étaient tout sauf tendres. Ils sont devenus par la suite mieux formés. Mais il ne l'était quasiment pas au début des années 70.
On a entendu aussi dans le récit cette horreur des ceintures de contention, enfin où des gens attachés à des lits. On est sorti de ça quand ?
Ben, j'ai un ami qui m'a dit, mais la dernière fois qu'il avait vu une ceinture de sécurité, c'était en 1987.
Alors tout cela débouche sur des mutineries, des soulèvements de prisonniers durement réprimés à chaque fois. C'est tout nouveau ou est-ce que la mutinerie, ça fait partie de l'histoire des prisons ?
Il y avait eu des mutineries, mais il y en avait très peu à la fois. Mais en 1974, par exemple, c'était impressionnant pour le public d'assister à des révoltes qui n'étaient pas du tout d'ailleurs forcément des mutineries, mais des mouvements, comme les appelait l'administration pénitentiaire, dans une centaine de prisons en même temps.
Alors, à la suite de ces événements, le garde des Sceaux de l'époque, René Pleven, met en place des réformes. Dans votre livre, je crois que vous parlez de réformes à minima.
Tout à fait.
Pourquoi ?
Alors, les réformes de Pleven, à mon avis, c'était surtout sur des points de détail, et en plus, c'était des réformes qui étaient inappliquées sur le terrain. Il y a un spécialiste des prisons qui a dit que les réformes pénitentiaires sont faites pour ne pas être appliquées. Et c'était à peu près ça.
C'est juste pour l'affichage, quoi.
Voilà. Et puis c'était assez un exemple de non-application sur le terrain. Je peux vous en donner un.
Oui.
Pleven avait fait écrire dans la réforme qu'il prohibait, ce qui est un mot fort, qu'il prohibait les châtiments corporels, mais plusieurs années après encore, dans une prison à Lyon, les CRS tiraient à bout portant dans les couloirs de la prison et ils ont gravement blessé un grand nombre de prisonniers.
Alors on va parler maintenant des femmes en prison. On va entendre une détenue, c'est un extrait de l'interview d'une prisonnière en 1975. Alors, elle évoque des progrès. On va l'écouter d'abord et puis on commentera ensuite.
Madame, est-ce que vous êtes pour longtemps en prison ?
Là, j'ai une peine de 2 ans à faire.
Vous êtes allée souvent en prison ?
J'ai été beaucoup, oui.
On s'habitue à la prison ?
On s'y habitue, on est obligé de s'habituer, c'est normal, hein. À force d'y être, c'est le début qui semble dur, quoi. Mais enfin, une fois qu'on y est, on n'y pense plus, quoi. Avant, on n'avait pas le droit au maquillage, on n'avait pas la coiffure comme on a aujourd'hui, on n'avait pas le rouge à lèvres, on n'avait pas de fond de teint, on n'avait pas de tout ça, on n'avait pas. Ça,
c'est... Vous aviez l'impression d'être dégradé ?
Ah oui, on n'avait même pas le droit à nos affaires, à nos habits personnels, on n'avait pas le droit. On avait le droit des longues jupes jusqu'à en bas de nos pieds, on avait le droit à des sabots, on n'avait même pas le droit à une paire de chaussures. Que maintenant. Aujourd'hui, que, comme on est prévenu, même aussi bien les condamnés n'ont pas à se plaindre parce qu'ils s'habillent avec leurs habits personnels.
Et les rapports avec les surveillantes ?
Les rapports avec les surveillantes, moi, j'ai pas à me plaindre. Je n'ai rien à dire contre eux, loin de là.
Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, elles sont plus proches de vous qu'elles ne l'étaient auparavant ?
Ah oui, oui. On peut leur demander n'importe quel service, que ce soit un papier, n'importe quoi, que vraiment, ils sont vraiment pour nous. Quand on allait des fois à la cour, elle peut qu'on bavardait à l'un l'autre, on montait, on était punis.
Car il était interdit de parler.
Ah, il était interdit, oui.
Être puni, ça voulait dire quoi ?
Pas écrire, pas de courrier, privé de cantine. Mais non, non, on a la cantine, on a le droit à notre courrier, mieux qu'avant, quoi.
Bon, alors peut-être cette femme a-t-elle été soigneusement choisie par l'administration pénitentiaire, parce que dans son propos, on a l'impression que les progrès sont énormes. Ce n'est pas vrai. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage ?
Ben déjà, il faut dire que les femmes étaient quand même dans l'ensemble beaucoup mieux traitées que les hommes dans les prisons. Ce n'était pas un régime terrifiant, il y avait très peu de violence de la part des gardiennes, ou pas du tout. Et je pense que le plus grave dans les prisons de femmes, c'était surtout l'infantilisation à laquelle elles étaient soumises.
Alors, en 1975, là, on traverse le plafond de verre. En France, on met en place un nouveau département carcéral appelé quartier de haute sécurité. Les QHS, on leur mettait des gens dans un placard. Vous voyez plus le jour. Robert Knobelpiece avait beaucoup témoigné sur ce point. Et probablement que ça a fait avancer les choses. Et Robert Badinter, bah, y mettra fin. Anne Guérin, aujourd'hui, quelles sont les conditions de détention en France ? Est-ce qu'on a fait vraiment des progrès ?
Je voudrais quand même vous reprendre sur quelque chose, c'est que on n'a pas mis fin au QHS au moment où Badinter est devenu ministre. Ça a été dit par de nombreux prisonniers. On a refait les peintures dans les locaux, c'est vrai, mais en fait, les QHS n'ont jamais disparu. Ils ont eu d'autres noms.
C'est ça.
Et quand on voit que Salah Abdeslam est entré dans une prison qui est celle de Fleury-Mérogis, quand on décrit, je l'ai entendu à la radio, les conditions dans lesquelles on l'a enfermé, je me suis dit, ben, c'est des QHS, c'est rien d'autre. Mais le problème avec les QHS des années 70, et peut-être aussi aujourd'hui, je n'en sais rien, c'est qu'on mettait dans les QHS des détenus qui n'avaient pas fait grand-chose de mal, et dont les motifs d'envoi en QHS n'étaient pas vraiment du tout sérieux.
On va terminer, Anne Guérin, sur une note plus optimiste quand même. Vous connaissez la prison corse de Casabianda.
Ah oui.
Hein, alors on dit prison heureuse. Bon, je sais pas dans quelles conditions une prison peut être heureuse. Mais enfin bon, elle est ouverte. Comment ça se passe?
Alors aujourd'hui, ce sont surtout des détenus condamnés pour des histoires sexuelles qu'on met à Casabianda, ce qui n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs. Alors, c'est pas une mauvaise chose quand on sait que Casabianda est une prison sans mur et sans fermeture en fait. C'est de très nombreux hectares de fermes et de forêts où les détenus se livrent à des activités agricoles, forestières, etc.
Ils s'évadent pas?
Ben non, justement. C'est grand ouvert et personne ne s'évade.
Oh, quelle leçon.
C'est incroyable.
Quelle leçon.
Ils sont très... Enfin, parce qu'ils savent aussi que s'ils devaient mal se conduire, ils seraient renvoyés en France dans une prison beaucoup moins agréable. Donc ils ont quand même tout intérêt à collaborer au maximum. Ouais. Il y a très peu de surveillants dans cette prison. Il n'y a jamais de violence de la part des surveillants, que je sache. Mais Casabianda est un endroit dont l'administration pénitentiaire ne veut surtout pas faire des
la publicité. Clones. Et puis la publicité surtout, c'est ça.
Et puis encore des moins la publicité. On a beaucoup de mal à savoir des choses sur Casabianda.
D'autres nous diront, mais
c'est l'exception qui prouve la règle.
Exactement. D'autres nous diront, mais il faut que la prison soit dissuasive. Il faut qu'elle soit dure pour faire peur. Ça reste à prouver. Merci en tout cas. Anne Guérin, merci pour vos éclairages et votre témoignage. Au revoir. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, la révolte dans les prisons, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'affaire Quentin Trintignant. C'était en août 2003.